Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. La transition au Mali sera dirigée pendant plusieurs mois par Ba Naw, un colonel à la retraite et ex-ministre de la Défense, avant un retour des civils à la tête du pays. Le président de la transition est flanqué d'un vice-président doté d'importantes prérogatives sécuritaires, appelé à le remplacer en cas d'incapacité et qui n'est autre que l'actuel chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Nous reviendrons dans un instant sur ces développements avec Yacouba Ouédraogo et Abdourahman Dia. Lundi soir, dans un discours télévisé à la veille de la fête nationale du Mali, le colonel Goïta a promis de gagner la guerre pour la sécurité dans tout le pays, en proie aux attaques djihadistes depuis 2012 et auxquelles se mêlent des violences communautaires. Les forces de défense répondent et répondront avec vaillance en tout lieu. Plaçons cette fête sous le signe d'un nouveau départ pour le Mali, a-t-il ajouté. Au Burkina Faso voisin, au moins 26 terroristes ont été neutralisés lors de deux opérations militaires menées les 11 et 13 septembre dans le nord du pays, a annoncé lundi l'état-major burkinabé dans un communiqué. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et aussi du Niger, et le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Le nord est la zone la plus touchée du pays par les exactions djihadistes qui ont fait plus de 1100 morts et plus d'un million de déplacés internes fuyant les zones de violence. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, qui a débuté une mission d'une semaine en Côte d'Ivoire, a appelé à la retenue tous les acteurs de la présidentielle du 31 octobre. Il les a invités aussi à éviter les violences et les recours aux discours de haine, tout en les exhortant à la concertation. M. Chambas a lancé son appel à l'issue d'une audience avec le président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé. Quatre militaires camerounais ont été condamnés à 10 ans de prison ferme lundi et un autre à 2 ans pour l'assassinat en 2015 de deux femmes et de leurs deux enfants, exécutés à bout portant dans le nord du pays confrontés à des groupes djihadistes nigérians. En juillet 2018, une vidéo montrant des soldats criblant de balles ces deux femmes agenouillées et les yeux bandés, ainsi qu'une fillette et un bébé que l'une d'elles portait sur le dos, avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Reprise des cours lundi pour les étudiants de l'Université publique de Brazzaville, la seule de la République du Congo, après 6 mois d'interruption, à la suite de la levée partielle des mesures anti-coronavirus, a constaté un journaliste de l'AFP. On déplore officiellement dans le pays 5002 cas, dont 80 décès. La situation paraît préoccupante en Algérie, où le nombre de cas positifs de coronavirus a franchi les 50 000 lundi. En France, où plus de 5 000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures, ou en Tunisie, où un nombre record de nouveaux malades du Covid-19 a été enregistré ces derniers jours, sans pour autant que des mesures de reconfinement n'y soient envisagées. Ici, aux États-Unis, on s'apprête à franchir la barre des 200 000 morts, selon le dernier comptage de l'Université Johns Hopkins, 199 815 décès pour 6,8 millions de cas de COVID-19. En Espagne, ces 2 semaines de sévères restrictions dans leurs déplacements pour près d'un million d'habitants de Madrid et de ses environs depuis lundi matin afin de tenter de freiner une explosion des cas de COVID-19. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson doit confirmer mardi que les pubs, bars et restaurants devront fermer à 22 heures à partir de jeudi en Angleterre. La suite de nos informations. Au Mali, pour la deuxième fois en 6 ans, le colonel Bandao, futur président de la transition, doit sa promotion à l'échec du président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. Yacouba Ouédraogo.
Âgé de 70 ans, natif de Saint, dans le centre du pays, le grand, comme le surnomme ses proches à cause de sa taille, 1m95, est un personnage peu connu. Engagé volontaire dans l'armée en 1973, il est sélectionné l'année d'après pour un stage de pilote d'hélicoptère en Union soviétique. Le colonel Bandao a été aide de camp du dictateur Moussa Traoré, décédé la semaine dernière. Tour à tour, chef d'état-major de l'aviation, directeur du génie militaire et chef d'état-major adjoint de la garde nationale, il est aussi diplômé de la prestigieuse école de guerre de Paris. En 2008, il devient directeur de l'Office national des anciens combattants, puis fait valoir ses droits à la retraite en 2012. 2 ans plus tard, il est nommé ministre de la Défense du président Ibrahim Boubacar Keïta, peu après la défaite humiliante de l'armée malienne à Kidal, bastion de l'ex-rébellion à dominante Touareg. Il n'occupera ce poste que quelques mois. La junte a annoncé hier son nom pour diriger la transition. Le colonel Bandao prêtera serment vendredi, a précisé le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, lui-même vice-président de cette transition, qui doit durer 18 mois.
Le ministre congolais de la Santé a promis lundi de lutter contre l'Ebola business, une forme de corruption dénoncée par les deux de 3 pays qui versent des centaines de millions de dollars d'aide publique à la République démocratique du Congo. Abdourahmane Dia.
Preuve de la fermeté du gouvernement, 7 agents de santé ont été présentés à la justice pour malversation présumée, selon le ministre Eteni Longondo. Accusés de la manipulation des listes, ils ont été déférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes, selon le communiqué du ministre. Il assure que la gestion de ces fonds se fera en toute transparence lors de cette épidémie déclarée dans la province de l'Équateur. Les ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, le 15 septembre, de retour d'une mission conjointe sur les lieux de la nouvelle épidémie, ont écrit que le peuple congolais en a assez des pratiques de corruption. À Mbandaka, il y avait plus de 4000 membres du personnel qui étaient affectés à la réponse contre Ebola, alors qu'on était à 120 cas seulement. Pourquoi 4000 personnes, s'est interrogé l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, vendredi sur une radio locale. Sans citer les 3 ambassadeurs, le communiqué du ministère congolais de la Santé explique, aussitôt informé de l'existence des listes de pays gonflées, le ministre de la Santé a ouvert une enquête qui a conduit à la suspension des 7 agents de santé.
Ici aux États-Unis, la dépouille de la juge Ruth Bader Ginsburg sera exposée mercredi et jeudi à la Cour suprême et recevra un hommage national vendredi au Capitole. Le point avec Michel Joseph.
Les hommages débutent mercredi avec l'arrivée au petit matin de son cercueil dans le bâtiment de la Cour suprême au cœur de Washington, où elle a siégé pendant 27 ans. Sa dépouille sera déposée dans le hall de la haute cour au-dessus de grandes marches de marbre blanc. Les Américains pourront faire leurs adieux mercredi ou jeudi, mais devront rester à l'extérieur en raison de la pandémie de COVID-19. Vendredi, la juge que l'on appelait familièrement RBG, sera transportée dans l'enceinte du Capitole, le siège du Congrès américain, qui fait face à la Cour suprême. La magistrate, une icône féministe et progressiste, sera inhumée dans l'intimité la semaine prochaine au cimetière national d'Arlington, près de Washington. Le président Donald Trump a annoncé hier qu'il va désigner vendredi ou samedi une autre femme pour la remplacer. C'est le Sénat, dominé par les Républicains, qui doit confirmer toute nomination. Un nouveau front s'est ouvert dans la campagne électorale, très polarisée, en vue de la présidentielle du 3 novembre.
La Minute Éco, Nanik Talani.
En Libye, la Compagnie nationale de pétrole veut reprendre la production et les exportations pétrolières sur les sites sûrs après l'annonce samedi de la levée d'un blocus de 8 mois imposé par les forces du califat Haftar. Toutefois, la société maintient la force majeure là où les groupes armés sont encore présents. Cela permet à la NOC de ne pas être tenue responsable du non-respect des contrats de livraison de pétrole. La NOC a déjà perdu 9,8 milliards de dollars à cause de ce blocus. L'Algérie veut reporter la mise en place d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre. L'accord, qui a pris effet le 1er septembre 2005, prévoyait une période de transition de 12 ans jusqu'en 2017 afin que l'Algérie élimine progressivement ses droits de douane sur des produits industriels et applique une libéralisation sélective de ses produits agricoles. Cette période a été prolongée de 3 ans jusqu'au 1er septembre 2020 pour certains produits. Pour terminer, au Kenya, la justice lance une enquête concernant 71 millions de dollars de dépenses irrégulières liées au COVID-19 effectuées par KEMSA, l'agence publique de fourniture médicale. Les investigations de la commission éthique et anticorruption ont déjà entraîné plusieurs suspensions, dont celle du directeur général de KEMSA. Plusieurs responsables et hommes d'affaires kényans sont accusés d'avoir dérobé 400 millions de dollars de fonds publics destinés à l'achat d'équipements médicaux de lutte contre la pandémie.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Papa Massata Diack évoque le soupçon du racisme dans l'affaire dite du dopage russe et de la corruption. Il a condamné sa condamnation en France pour son implication présumée dans un réseau de corruption voué à cacher des cas de dopage en Russie. Je n'ai plus peur de dire qu'il y a du racisme dans cette histoire. Il y a une volonté de faire de la morale, a déclaré le fils de l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack. L'ancien responsable du marketing Ali 2AF a été condamné le 16 septembre à Paris à 5 ans ferme et 1 million d'euros d'amende dans un procès dont il était l'un des grands absents parmi les 6 prévenus. Le tribunal a maintenu le mandat d'arrêt à l'encontre de Papa Massata Diack. Son père, Lamine Diack, présent pour sa part, a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 500 000 euros d'amende. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé la reprise de la saison de football. Lors d'une allocution télévisée, le chef de l'État a ajouté que les entraînements sportifs vont reprendre pour permettre aux équipes nationales de participer aux compétitions internationales à venir. Après des consultations avec la Fédération de football ghanéenne, il a été décidé que les championnats reprendront dans le pays à compter du 30 octobre. Des tests réguliers sont prévus pour les joueurs et l'encadrement sportif. Transfert, l'arrière droit Moussa Wagé a été prêté par le FC Barcelone à l'équipe grecque du PAOK Salonique pour une saison. Prêté à Nice lors de la deuxième partie de la saison dernière, l'international sénégalais de 21 ans avec 14 sélections a fait ses débuts avec le Barça le 13 avril 2019 lors d'une rencontre contre Huesca en Liga. Il a disputé 6 matchs avec l'équipe première du Barça, 4 en Liga et 2 en Ligue des Champions. Cyclisme, 2 gardes à vue étaient en cours hier après la découverte d'une méthode pouvant être qualifiée de dopante dans le cadre d'une enquête préliminaire visant une partie des coureurs d'Arkéa Samsic pendant le Tour de France, a annoncé le parquet de Marseille. La procureure Dominique Lawrence a affirmé que 2 gardes à vue sont en cours sans donner l'identité des personnes placées en garde à vue, mais ajoutant ont été découverts de nombreux produits de santé, dont des médicaments dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante. D'après la presse, une perquisition visant plusieurs coureurs de l'équipe, dont le Colombien Dayer Quintana, le frère de Nairo, et des membres de l'équipe médicale a été menée.
Pour avec vous, je vous donne rendez-vous demain mercredi dans À votre avis, votre émission débat à 18h05 temps universel sur VOA Afrique pour évoquer la situation au Mali. Pensez-vous que la CDAO a bien traité le coup d'État au Mali? Pouvoir civil ou militaire? Quel avenir pour le Mali qui fête son indépendance aujourd'hui 22 septembre? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons. Les débats sur VOA Afrique, c'est tous les jours dans À votre avis à 18h05 temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, l'ex-ministre de la Défense, Bandao, a été désigné ce lundi président de la transition par un comité mis en place par les militaires au pouvoir. L'annonce a été faite par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le nouveau président doit diriger une transition de 18 mois avant un retour des civils au pouvoir. Abdourahman Dia a joint à Bamako le journaliste Alexis Calambri.
Oui, alors Bandao est un officier supérieur à la retraite qui a un bon parcours en tant que militaire et je pense qu'il fait un peu consensus en ce sens que il a occupé de hautes fonctions dans l'administration militaire, il a dirigé les troupes à plusieurs niveaux, il a été ministre par le passé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu venir parce qu'il n'a pas été cité parmi beaucoup parmi les gens qui étaient annoncés, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de discussions sur son choix, en ce sens que c'est quelqu'un qui est très discret, qui n'a pas de casserole, qui a été au niveau de l'armée, comme je l'ai dit, à beaucoup de niveaux, donc qui est très respecté dans par les troupes sur le terrain et à tous les niveaux. Donc, je pense que le choix peut passer.
Alors, c'est un ancien militaire qui va diriger la transition et le vice-président aussi est le chef de la junte, Goïta. Est-ce que cela ne pourrait pas importuner certaines personnes que c'est en réalité un pouvoir militaire qui se dessine?
C'est un pouvoir peut-être militaire, mais ça rassure un peu la CEDEAO parce que la condition posée par la CEDEAO, c'était que le président soit un civil ou un militaire à la retraite, mais que le vice-président peut être un militaire, mais leur condition à ce niveau, c'était juste les prérogatives qui lui étaient dévolues. Et là, la copie a été revue fortement pour lui enlever beaucoup de prérogatives en tant que vice-président. Donc, je pense que à ce niveau, ça peut passer.
Quelle sera, selon vous, la réaction du M5? Vous pensez que le M5 sera à bord?
Alors, ils ont une longue discussion pendant deux jours avec la junte. Leur préoccupation, c'était d'abord que ça soit un civil, mais ensuite, je pense que ce qui n'a pas été dit, ils ont dû négocier un quota au niveau du gouvernement. Mais dans le communiqué officiel qu'ils ont eu à faire, ils affirment avoir eu un terrain d'entente avec la junte par rapport à la conduite de la transition. Donc, je pense que à ce niveau également, ça s'est décanté.
Notre confrère Alexis Calambri joint à Bamako au Mali.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24h/24.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié a appelé dimanche au nom de l'opposition à la désobéissance civile face à la candidature controversée en troisième mandat du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre. Un appel lancé à l'issue d'une réunion avec les principaux partis de l'opposition au siège du PDCI. Yacouba Ouédraogo a joint notre confrère Alexis Tano, qui lui a dit que ce lundi, la situation était calme à Abidjan.
Comme d'ordinaire, les Ivoiriens se sont réveillés comme d'habitude, se sont rendus à l'heure du travail. La désobéissance civile, le mot d'ordre de désobéissance civile n'a pas été lancé particulièrement aujourd'hui. Je crois que quand on a écouté le président Bédié, il a dit que face à tout ce qu'il a relevé comme grief, comme manquement qu'il a imputé au régime, il a dit que face à cette situation, une désobéissance civile s'imposait. Une désobéissance civile dans l'unité d'action et dans la bonne programmation. Donc je crois que ce n'a pas encore été programmé.
Henri Konan Bédié avait à ses côtés un représentant du mouvement Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro. Il y avait également un représentant du FPI Pro Gbagbo. Alors que Bédié semble parler au nom de l'opposition, Afin Guessant n'y était pas par exemple.
Afin Guessant n'a pas été convié parce que, d'après ce que lui-même a dit, il était attendu pour une rencontre personnelle, un tête-à-tête avec le président Bédié, attendu quelques dissensions d'abord avant de l'intégrer.
Le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Alassane Ouattara. Bédier est candidat, il y a Afingessa aussi qui est candidat, il y a Kakabé candidat. Est-ce que c'est le moment d'appeler à la désobéissance civile quand on va à une élection?
Tu sais, quand on regarde les conditions dans lesquelles certaines candidatures ont été rejetées selon l'opposition, les membres de l'opposition ont estimé qu'il fallait une certaine unité d'action et qu'il ne fallait pas, devant l'ordre du RHDP, il ne fallait pas aller aux élections en rang dispersé, au risque de se faire écraser. Et je crois que les gars se sont retrouvés dans un même combat. Il faut faire l'unité au sein de l'opposition avant d'aller affronter le candidat du RADP, le président Alassane Ouattara, qui est un candidat, pour le reconnaître, qui a aujourd'hui tous les atouts pour battre les adversaires de l'opposition.
Justement, on connaît l'opposition unie, l'opposition qui dénonce dans son ensemble le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Pourquoi alors ils sont allés en candidature émiettée à cette présidentielle-là?
C'est aussi ce qu'on remarque aussi dans un parce que tous les pays africains, ils ont les mêmes problèmes. Mais certains égaux font qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur un seul candidat. Chacun va individuellement, il représente son parti, et puis au second tour, on fait les alliances. Mais ils oublient qu'au premier tour, on peut les battre à temps de couture.
On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire avec les violences post-électorales de 2010 qui ont fait au moins 3000 morts. Est-ce qu'il faut craindre que cet appel de Bédier à la désobéissance civile n'aboutisse à des violences?
C'est la vraie préoccupation aujourd'hui de toutes les actions communes, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. Les ingrédients sont réunis. Ça, il ne faut pas se voiler la face, même si les autorités tentent de calmer, d'apaiser l'opinion en disant qu'il n'y aura rien. Mais les éléments sont là, il faut être objectif à ce sujet. Mais c'est ça déjà commenté. Avec le refus de la décision du Conseil constitutionnel, avec la réactivation du président de la CEI, et tout ce qui suit. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas dans un climat apaisé, quoi qu'on le dise. Aujourd'hui, il y a une véritable tension sur la Côte d'Ivoire.
L'analyste politique Alexis Tano, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila se sont rencontrés dimanche alors que leur coalition au pouvoir, CACH-FCC, connaît de vives tensions. Pour une analyse, Eddie Isango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi.
C'était un signal fort donné par les deux autorités morales, l'une qui est l'autorité morale de FCC et l'autre de CACH, pour essayer tant soit peu d'apaiser les esprits. Parce qu'il y a eu trop de tensions entre FCC et CACH autour d'un certain nombre de dossiers. Point n'est besoin de rappeler ici qu'il y a eu cette affaire d'ordonnance querellée, contestée autour des hauts magistrats ainsi que des officiers supérieurs de l'armée. Il y a eu le problème de démission d'un vice-premier ministre et ministre de la Justice Tunda. Il y a eu le problème de contrefaits. Il y a eu des lois minant Kouskata. Il y a eu M. Kamoun qui a été vincé. Donc il y a eu une série de problèmes. Et même maintenant, il y a aussi des problèmes d'éliminance de la nomination dans la territoriale. Le bruit pour que le vice-président puisse procéder à des nominations sans consultation de l'autre famille politique. Donc, nous pensons que la rencontre, si elle peut contribuer à apaiser les esprits, à ramener les gens autour d'une table, ça serait une meilleure affaire.
Mais quelle lecture faire par rapport au temps? La semaine dernière, Joseph Kabila est allé pour la toute première fois au Sénat et prendre sa place de sénateur à vie.
Nous pensons qu'il est resté longtemps en réserve pour observer. C'est un acteur politique majeur, il a une famille politique, il y a une institution dans laquelle il a le statut de sénateur à vie. Nous pensons que son déplacement, ça signifie qu'il est disposé à apporter sa contribution, mais aussi à se rendre de plus en plus utile là où c'est nécessaire. Au-delà de faits et gestes, il y a tout un message, il y a eu toute une symbolique, c'est pour dire, je suis là, moi Joseph Kabila. Donc, il ne faut pas me conjuguer au passé.
Cette rencontre se fait quelques jours après des révélations des membres du FCC par rapport au contenu, à une partie du contenu du deal ou de l'entente entre l'ancien président et le président au pouvoir maintenant, qui parle du soutien promis par les CACH aux candidats du FCC qui pourrait bien être encore Monsieur Joseph Kabila.
Le deal tel qu'il a été dévoilé, permet aussi de servir des ballons d'essai. C'est un message qui permet quand même de pouvoir sonder, prendre la température dans l'opinion. Les lanceurs d'alerte le savent très bien. Quand on a besoin d'opérer dans un champ, il y a moyen de lancer une alerte pour pouvoir tester, prendre la température. Vous savez aussi qu'il n'y a pas que ce problème de la candidature, il y a aussi le problème de la présidentielle à un tour et au second degré. Il y a une série d'autres questions qui sont consécutives à l'organisation des élections, dont la réforme du cadre organique de la CENI.
Marcel Ngoï, éditeur du quotidien La Prospérité.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Alors que les États-Unis sont endeuillés par la mort vendredi de Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême, le président Donald Trump promet de nommer pour lui succéder une femme cette semaine. Le leader républicain du Sénat dit qu'il fera tout pour confirmer cette candidate, mais les démocrates font de la résistance. Au moins deux sénatrices républicaines disent préférer attendre jusqu'après les élections pour un vote de confirmation. C'est donc un nouveau front qui s'ouvre à 6 semaines du scrutin du 3 novembre. Reportage de Michel Quinn. Récit de Lionel Gahim.
Ce week-end, les Américains ont pleuré la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi après avoir siégé à la haute cour pendant 27 ans. Le président Donald Trump a fait savoir qu'il va nommer un remplaçant pour son siège cette semaine. Les démocrates estiment que le pays devrait attendre un candidat qu'après l'investiture d'un président en janvier, comme cela s'est produit au cours de la dernière année du président Barack Obama. La présidente de la Chambre de représentants Nancy Pelosi a déclaré que les démocrates vont essayer de bloquer le candidat désigné par le président.
Eh bien, nous avons nos options. Nous avons des flèches dans notre carquois dont je ne peux pas discuter pour le moment. Mais le fait est que nous avons un grand défi dans notre pays. Ce président a menacé de ne même pas accepter les résultats de l'élection avec ses déclarations et celles de ses hommes de main. Donc, pour le moment, notre objectif principal, et je pense que Ruth Bader Ginsburg voudrait que ce soit le cas, serait de protéger l'intégrité des élections tout en protégeant le peuple américain contre le coronavirus.
Pelosi et Joe Biden, candidats à la présidence, lient cette bataille pour la Cour suprême à la réponse de la nation au coronavirus. Quelques jours après les élections du 3 novembre, la Cour suprême doit examiner une importante loi fédérale sur les soins de santé.
Donc, le président se précipite pour prendre une sorte de décision parce que le 10 novembre, les arguments vont commencer sur la loi sur les soins abordables. Il ne veut pas tuer le virus, il veut écraser la loi sur les soins abordables.
Les républicains disent qu'ils considère le siège à la Cour suprême important pour soutenir la liberté religieuse, la liberté d'expression et les droits sur les armes à feu et d'autres questions qui tiennent à cœur les conservateurs. Ted Cruz, sénateur républicain du Texas, est membre de la commission judiciaire du Sénat.
Vous recherchez un dossier solide prouvant que cet individu a défendu la Constitution, défendu la liberté d'expression, défendu la liberté religieuse, défendu le deuxième amendement et a-t-il souffert de l'animosité et des flèches? Est-ce qu'ils ont été critiqués par la presse? Face aux attaques de la presse, sont-ils restés forts?
Républicains et démocrates conviennent qu'il y aura probablement des litiges sur les résultats de l'élection présidentielle et qu'une décision finale pourrait venir de la Cour suprême comme c'était le cas en 2000 pour départager Al Gore et George Bush, ce qui rend la bataille pour le siège vacant de la Cour suprême encore plus intense.
Nous avons besoin d'un tribunal complet le jour du scrutin, étant donné la très forte probabilité que nous allons avoir des litiges devant la haute cour. Nous avons besoin d'une Cour suprême qui puisse donner une réponse définitive au pays.
Ce qui est clair, un nouveau front politique aux enjeux importants s'est ouvert à quelques semaines de l'élection présidentielle.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.